Bien, bon, merci pour l'invitation d'abord. J'ai donné un titre volontairement assez général et je voudrais vous expliquer pourquoi, parce que au fond, je vais dresser un panorama sur plus de 8 siècles, c'est absolument énorme. Et évidemment, les choses ne sont pas égales au début et à la fin de cette période. En même temps, ça m'a paru nécessaire pour une raison simple, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde le programme de votre séminaire, donc bon, tout le monde connaît Mersenne, Raymond Lulli, David Leibniz, etc., donc tous ces gens sont situés dans un certain cadre. J'aurais pu aussi vous sortir de mon chapeau les travaux en cas combinatoire de tel personnage. En même temps, j'aurais trouvé ça dommage, finalement, de ne pas dresser au préalable une sorte de panorama général qui vous donne aussi un aperçu du développement de l'art combinatoire dans le monde arabe. Donc, ce panorama général, je vais partir d'un livre qui s'appelle « Le Kitab al-Rayn », que je vais un peu développer tout à l'heure, dont je vais tout à l'heure développer un peu l'analyse, d'un certain El Khalil Nahmad, qui est quelqu'un qui est un... Bon, je présentais tout à l'heure, mais on est au 8e siècle, c'est-à-dire on est vraiment très très tôt. Et puis, je vais aller sur un traité du 16e, qui s'intitule, là je donne la traduction, sur la détermination des éventualités combinables à partir d'un nombre quelconque, qui est vraiment un traité d'analyse combinatoire en tant que tel. Et c'est-à-dire qu'au fond, dans ce panorama, je voudrais au fond essayer de brosser assez succinctement, parce que je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais une histoire qui est celle de l'autonomisation en fait de la combinatoire. C'est-à-dire qu'on va trouver au début, et que c'est le cas dans beaucoup d'endroits, des activités combinatoires dans des champs multiples, tu sais, avec la métrique, la prosodie, enfin, la lexicographie, la métaphysique, l'algèbre, la théorie des nombres, ce que vous voudrez. Il peut y avoir des activités combinatoires. En même temps, il y a un moment où on peut se dire, tiens, mais finalement, cette activité combinatoire que je mène dans le champ de la lexicographie, ce sont les mêmes outils que je retrouve lorsque je fais de l'algèbre ou lorsque je fais de la métaphysique. Donc c'est cette prise de conscience, au fond, qui va être une prise de conscience progressive de ce qu'au fond ces activités ont quelque chose en commun, qui va mener de façon assez naturelle à la rédaction au XVIe siècle d'un premier traité en fait, d'analyse combinatoire en tant que tel, où l'objet même de l'esprit, ce sont précisément les combinaisons et comment on peut tirer un certain nombre de résultats de cela. Alors, il faut bien dire que tout ce travail a été réalisé par Roger Rachel, à peu près dans tous les champs, aussi bien celui de la lexicographie que de la métaphysique que les mathématiques, évidemment. Je vous donne ici une référence qui sur laquelle je m'appuyais, vous avez retrouvé beaucoup d'éléments en commun à mon discours aujourd'hui. Je vous donne ici la référence, je pense que c'est extrêmement intéressant. Ça vous donne déjà un certain cadre de ce qu'ont pu être les activités combinatoires dans le monde arabe. Donc ça s'intitule Algèbre et linguistique, les débuts de l'analyse combinatoire. En fait, c'est un peu plus étendu que ça, puisque il reprend un article un peu plus ancien où il y avait uniquement l'algèbre linguistique. Là, il étend à d'autres choses. Il a des vues sur la théorie des nombres et sur la métaphysique également. Il donne un certain nombre de références. Et puis, à partir de là, vous pourrez, si ça vous intéresse, aller remonter en amont sur des études beaucoup plus parlantes. Donc ça, ça va être la première partie de mon exposé où je vais rester relativement avec une certaine hauteur, si vous voulez. Et puis dans la deuxième partie, je vais m'intéresser à un champ plus particulier qui est celui des rapports composés. J'ai fait ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un point qui avait été évoqué, qui est évoqué par le GRG dans son article, mais qu'il ne développe pas. Il ne développe pas, donc vous n'allez rien trouver dessus dans cet article. En même temps, c'est un point assez important, qui m'a paru assez important à développer, je vais expliquer pourquoi. Et puis aussi, c'est un champ que j'ai investi moi-même, donc que j'ai travaillé, et donc là, c'est plutôt mes résultats personnels, plutôt que ceux d'un autre que je vais exposer. Donc, et ça m'a paru aussi intéressant pour une troisième raison, c'est qu'on y voit développer non pas des outils combinatoires, mais vraiment des raisonnements combinatoires. Et ça m'a paru aussi être intéressant de l'exploiter. Voilà. Je passe donc au premier point qui est linguistique combinatoire, ou plus exactement ce que je vais développé ici, c'est lexicographie et combinatoire, avec un personnage qui est vraiment tout à fait fascinant, c'est-à-dire que vous voyez ces dates, c'est-à-dire c'est 718-786. C'est quelqu'un qui est à la fois mathématicien, qui a écrit un traité d'arithmétique, traité qui est perdu, puisqu'en fait le plus ancien traité de mathématiques qu'on a dans le monde arabe date de la troisième décennie du 9e siècle, donc on est bien plus tard. C'est quelqu'un qui est aussi musicologue, c'est quelqu'un qui est linguiste dans toute l'étendue du champ, c'est-à-dire non seulement la lexicographie, mais aussi la prosodie, la phonologie, la grammaire, etc. etc. Et dans tous ces genres, dans tous ces champs, il a pu exercer une activité combinatoire. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont perdues de cette époque. Mais ce que l'on garde, c'est son dictionnaire, qui s'appelle Kitab el-Ayn, que je ne traduis pas parce qu'on a pris l'habitude dans la littérature secondaire de ne pas le traduire. Simplement, bon, Kitab, ça veut dire livre. Et el-Ayn, alors el-Ayn, c'est un peu un mot polysémique. Dans le sens premier, c'est l'œil, mais ça peut être la source qui jaillit. Ça peut être un mot aussi qu'on peut utiliser pour dire, lorsque je dis, par exemple, lui-même en personne, le en personne qui va désigner, on utilise ce mot-là aussi. C'est-à-dire que l'œil ici, c'est une métaphore un peu utilisée en termes de métaphore pour désigner évidemment la personne elle-même. Et c'est aussi une des lettres de l'alphabet. Donc je ne sais pas exactement, il y a certainement des choses, des gens qui sont plus calés que moi pour savoir pourquoi ça s'appelle comme ça, mais enfin, bon, comme on a l'habitude de désigner comme ça, et que comme la traduction n'est pas si facile, je le laisse comme ça, donc tout à l'heure. Donc c'est un dictionnaire. C'est un dictionnaire, j'ai ramené ici le premier volume, pour que vous ayez, bon, même si sans connaître l'arabe, vous voyez un peu comment c'est composé. C'est peut-être le premier dictionnaire de langue, c'est-à-dire un dictionnaire qui n'est pas qu'un lexique. C'est un dictionnaire qui ressemble à nos dictionnaires aujourd'hui, c'est-à-dire il y a un mot, et puis vous donnez les différents sens, et à chaque fois vous donnez une citation, un tel dit machin, et vous voyez le mot dans son contexte. Ça, c'est, et donc ça, je ne connais pas de cas dans n'importe quelle civilisation de dictionnaire de ce type qui ressemble beaucoup aux autres. Donc c'est un dictionnaire qui est rédigé par lui et par son élève, qui s'appelle Aïdan. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans l'introduction, il y a une introduction qui fait une quinzaine de pages, une vingtaine de pages dans l'édition qui est ici, où il explique un peu son projet. Il a un peu son projet. Il y a aussi une intervention de son élève, Eliag, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien exactement qui a composé quoi dans ce qui nous est parvenu. En tout cas, tout le monde s'accorde pour dire que le projet initial était bien celui d'Al-Khalid. Donc je vous fais circuler, si vous voulez, vous verrez comment ça. Alors évidemment, ça se lit à partir de.
Enfin, de l'autre côté, quoi.
Et donc, vous verrez à chaque fois que vous avez un mot, il est en rouge, et puis après les. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que le point de départ, celui du lexicographe, c'est un point de départ qui est au fond assez combinatoire. D'abord, il part sur un certain nombre de principes. Le premier principe, c'est que La langue, ce dont il va parler, ce qu'il va exposer, c'est une partie phonétiquement réalisée de la langue possible. Donc on va s'intéresser d'abord à ce que c'est que la langue possible. Donc les mots de la langue possible vont s'obtenir par combinaison et permutation des lettres. Et les mots de la langue elle-même, ce sont les mots de la langue possible qui vérifient un certain nombre de règles de compatibilité phonétique et qui sont effectivement utilisées. Ce qui veut dire qu'au fond, dans son introduction, il va s'atteler à deux tâches. D'abord une tâche proprement combinatoire, c'est-à-dire de savoir effectivement quels sont les mots de la langue possible, qu'est-ce que je peux fabriquer. Et puis ensuite, on va examiner les contraintes phonologiques, puisque tout n'est pas possible, il faut que j'écarte un certain nombre de choses. Et puis, en plus, il y a forcément des considérations ethno-linguistiques ou historiques qui vont faire qu'effectivement, ces mots-là vont être réalisés ou pas. Donc, ces tâches, donc, on les voit exposées dans cette introduction. Alors, il faut dire aussi, comme c'est un texte extrêmement ancien, c'est déjà miraculeux que ça nous ait rendu. Enfin, c'est pas tout à fait miraculeux parce que ça montre aussi que l'effet de ce texte peut avoir une influence absolument gigantesque. Mais il se trouve qu'il y a des choses perdues, c'est-à-dire qu'il y a des témoignages ultérieurs qui vont dire Rallier a dit ça, Rallier a dit ceci, et puis en fait on n'a pas le texte. Donc on est obligé aussi de s'appuyer sur les commentaires. Alors je passe donc à la première tâche, à la tâche proprement combinatoire. Alors il commence à remarquer que les mots arabes, alors plus que les mots, en fait ce sont les racines, ici c'est pas forcément ici les mots, soit bilitaires, trilitaires, quadrilitaires ou quinquilitaires. C'est-à-dire qu'il y a 2, 3, 4 ou 5 lettres. Il faudra plutôt dire les racines. Si ça sera à partir de certaines racines, vous pouvez composer des mots qui vont jusqu'à 10 lettres, mais fondés sur ces racines. Alors il faut savoir qu'en réalité, il y a extrêmement peu de mots quinquilitaires. Je l'ai rencontré 2 ou 3 années dernière. Quoi qu'il y en ait, dans la langue possible, évidemment, un nombre beaucoup plus important. Les quadrilitaires, qu'on a quelques-uns aussi, mais la grande masse des mots, ce sont des racines trilitaires. Je n'ai pas fait de statistiques comme ça, mais pardon, mon impression, c'est qu'on est à 90% sur des racines trilitaires. Mais enfin, peu importe, puisqu'il s'agit de la langue possible, et puisqu'on a des racines conquilitaires, ça existe, eh bien, on va essayer de regarder tout ce qui est possible. Donc, ce qu'il va faire, c'est que pour R compris entre 2 et 5, il va calculer le nombre de combinaisons sans répétition de R lettres de l'alphabet, en considérant qu'il y a 28 lettres dans l'alphabet tel qu'il le considère. Après, il y a des petites nuances, qu'il y avait tout à l'heure, pourquoi. Et ensuite, le nombre de permutations de chaque groupe de R lettres. Mais en même temps, bon, il donne extrêmement peu de détails, sinon une méthode, un principe, un projet. Et en fait, les détails suivent chez les commentateurs, notamment chez un certain Hamza El-Isfahani, qui est d'Isfahan, comme son nom l'indique, qui vit au Xe siècle. Lui-même, le témoignage qui est transmis par un linguiste encore plus tardif, Al-Suyuti, et je cite Al-Suyuti, et il dit, Al-Isfahani a dit, El-Khalil a mentionné dans son Kitab el-Rayn, ce qu'on n'a pas exactement tel que c'est tel pour la langue, que le nombre de ces formes, ou de ces racines, de la langue des Arabes, celles utilisées et celles négligées pour les quatre rangs, militaires, trilitaires, quadrilitaires et quadrilitaires, sans répétition, est de 12 000, 1 300 000, 5 412, c'est-à-dire que vous avez ici, en fait, il y a 12 305 412, la façon d'écrire, enfin j'ai repris la citation telle quelle, donc on a 12 305 412 qui se répartissent de la façon suivante. Pour les militaires, c'est 156, c'est-à-dire c'est le nombre d'arrangements de deux lettres pris parmi 28. Les trilitaires, 19 656, quadrilitaires, 481 400, et enfin les quantilitaires, qui sont évidemment les plus nombreux dans la langue possible, même s'ils sont extrêmement peu nombreux dans la langue réelle, donc 11 793 000. Le problème, c'est que quand on arrive sur des chiffres pareils, évidemment, on peut douter que ça soit énorme. des comptes à la main. Il y a forcément un calcul qui vient derrière. La question est, comment a-t-il procédé pour ce calcul? Alors, il se trouve que, bon, on a aussi des témoignages, un peu, qui est notamment le témoignage du Malcolm, qui va donner des détails sur ce qui aurait pu être la méthode combinatoire d'El Khalil par l'usage de combinaisons. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir des la méthode est un peu compliquée telle qu'exposée par Ibn Khaldoun, c'est pour ça que je ne veux pas trop m'apesantir là-dessus. Notamment, il n'utilise pas en fait du tout ce qui pourrait nous sembler le plus naturel, c'est-à-dire de faire, pour avoir A 28,5, je multiplie 28 par 27 par 26 par 25, je l'ai oublié peut-être, par 24 aussi. C'est pas du tout ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il va commencer à prendre véritablement des combinaisons et multiplier par le nombre de permutations. Et donc ça, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué, qui va faire apparaître aussi, alors, de façon aussi un peu plus compliquée, des sommes du type de K par K moins 1, ou des choses comme ça, qui sont plus compliquées, qui demandent, pour les grands, les plus importants, des résultats qu'on ne trouve pas dans les arithmétiques de cette époque-là. Donc bah, tout ça pose un certain nombre de problèmes. En plus, il y a un certain nombre d'erreurs chez Ibn Khaldoun, donc on ne sait pas exactement sur quelle source il avait. Du moins, ça pose un problème. Ce que je veux simplement dire ici, c'est qu'il a très vraisemblablement des outils à sa disposition pour calculer ça, et que y en a des traces après de ses activités qui sont reprises par la suite pour les siècles qui suivent. Donc à Al-Khaldoun, on est au 14e, si je ne sais plus, c'est-à-dire bien après. Donc, ce qu'on peut lire aussi, ce qui est certain, c'est que, bon, je disais ici, en combinaison, puis je multiplie les combinaisons par le nombre de permutations, c'est qu'il va utiliser effectivement les permutations. Et Al-Khalil, il écrit la chose suivante, ça c'est par contre, on l'a lui dans l'introduction, et il écrit la chose suivante. Sache qu'un mot bilitaire prend deux formes, hein, comme QD ou DQ, c'est-à-dire, ou bien d'autres, hein, c'est-à-dire que vous avez deux formes, puisque ça dépend la première lettre que vous mettez avant, hein, parmi les deux. Les mots trinitaires prennent six formes, qu'on appelle Mazdoussa, c'est un mot qui est formé avec la racine Sadassa qui veut dire 6, en fait. En forme de 6, donc il prend trois lettres, et puis il va y voir comment les permutations qu'on peut avoir avec ces trois lettres. Hein, donc DRD, DBR, BRD, etc. On a une 6. Le mot quadrilitaire prend 24 formes, puisque ces lettres, qui sont 4, sont multipliées par le nombre des formes du trilitaire, qui est 6. Donc on obtient, non, il y a une petite erreur, c'est pas 34, c'est 24, hein, 24 formes. Le mot quinquilitaire prend 120 formes, car ces lettres, qui sont 5, sont multipliées par les formes des quadrilitaires, qui sont 24, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il sait très bien que le nombre de permutations, mais pour passer d'un rang à l'autre, il suffit de multiplier le rang d'avant par le nombre en question. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on a, qui est envisagé donc, dans l'introduction même d'El Khalil. Ça, c'est vraiment pour la partie combinatoire. Il est difficile d'en dire plus, parce qu'on n'a pas véritablement de témoignages beaucoup plus précis, hormis que, bon, voilà, il y a quand même cette idée de permutation, il y a des outils, il y a ce calcul, cette préoccupation aussi combinatoire au départ, plus un calcul. Ensuite, je passe à la phonologie. Et là, c'est extrêmement intéressant, parce que c'est également une façon... Alors là, il n'y a pas de calcul, mais enfin, c'est une présentation, elle aussi, combinatoire. Il commence pour présenter ces règles phonologiques, pour dire, voilà, bah, je ne peux pas mettre dans la langue réalisée, il faut que j'écarte un certain nombre de choses de la langue possible, et donc il faut exprimer certaines règles, et il exprime les choses de la façon suivante. Donc il va créer 9 classes de lettres. Alors en fait, il va reprendre 29 lettres, alors qu'avant il en avait pris 28. Bon, il y en a une 29e qui est en fait ce qu'on appelle le Hamza, qui est en fait l'attaque vocale. C'est quelque chose qu'on connaît, nous, en français, qu'on utilise même, parce que quand je vous dis avion, le A, il vient se poser sur A. Si je, je peux très bien mettre ça au milieu d'un mot, si, si je mets un... Ouais, par exemple, bon, une muraille, vous voyez que je, ça n'existe pas en français, mais je peux très bien mettre cette attaque comme consonne au milieu, je fais une muraille, plutôt qu'une muraille, vous voyez, c'est la chose est bien très différente. Bon, c'est cette lettre-là qui est en fait parfois, donc parfois compte pas, donc il a pour sa tonologie, eh bien, il rajoute cette lettre-là, ce qui fait qu'il y a 29 lettres, donc il va mettre 9 classes de lettres, en partant des lettres qui sont vraiment des lettres laryngales, c'est qui sont vraiment au fond de la gorge, puis on va remonter pour arriver vraiment jusqu'aux lèvres, donc ça va partir du Rhein, hein, c'est du Ha, et puis après les dernières lettres, la neuvième, c'est des voyelles, donc des voyelles ou des semi-voyelles comme le lieu, le wa, etc. Ça peut être différent. Mais la huitième, c'est vraiment des feul, beul, meul, etc. Donc c'est vraiment, on est vraiment sur les lèvres. Et donc il va y avoir toute cette progression de cette catégorie de lettres. Avec un certain nombre de règles, c'est-à-dire qu'effectivement, bon, ces règles sont assez compliquées, hein, mais pas c'est du style, par exemple, les deux premières lettres d'un mot ne peuvent pas être d'une même classe, parce que ce serait trop difficile avec deux laryngales qui suivent avant à prononcer, donc en fait on n'en trouve pas, et, bon, ce genre de choses qui sont exposées. Voilà en gros ce qu'on trouve chez El Khalil, avec un destin assez incroyable de ce livre. Bon, d'abord parce que c'est un livre quand même relativement exceptionnel. Et ensuite, c'est le point de départ de toute une tradition lexicographique. D'abord, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les dictionnaires de langue actuelle fonctionnent, comme chez El Khalil, sur un classement non pas des mots, mais des racines. C'est-à-dire qu'on va retrouver, rassembler sous une même racine, ben, des mots qui peuvent prendre des formes différentes. Hein. Normalement, traditionnellement, en gros, lorsque vous avez une racine, vous avez une dizaine de formes que vous pouvez construire, qui sont relativement, c'est bien codifié, la forme 1, la forme 2, la forme 3... avec des lettres au début qui ne sont pas du tout les lettres de la racine. C'est-à-dire que si vous vouliez avoir qui sont des sortes de préfixes, si vous voulez, qui correspondraient à ça dans notre langue à nous. C'est comme si tous les préfixes chez nous, on les supprimait pour mettre ça dans une ensemble avec les gens avec les mots de la même racine. Ce qui est effectivement un principe que l'on retrouve dans la lexicographie arabe jusqu'à maintenant avec ces dictionnaires-là. C'est le point de départ. Et puis, le point de départ de dictionnaires qui seront aussi des dictionnaires de langue, hein, sur le même principe, avec des citations, etc., avec le livre le plus fameux étant le fameux Lisan al-Arab, qui a quelques siècles plus tard, mais c'est un truc énorme, hein, ça fait 10 volumes, dans les éditions actuelles, et puis aussi un point de départ pour une tradition lexicographique, c'est-à-dire que tout ce calcul, combinatoire, tout ce calcul qui a été fait par El Khalil va être repris également par les successeurs qui vont essayer d'affiner un petit peu les choses, de reprendre le calcul d'une autre façon, etc. Voilà, ce qui fait qu'au fond, dans tous ces textes, pas chez Khalil, mais chez les successeurs, chez d'autres lexicographes, on va finir par concevoir, par partir de cette activité combinatoire, qu'elle correspond à une sorte de calcul. C'est déjà considéré comme tel, hein, un calcul très particulier, qui reste toujours dans le champ de la lexicographie, mais qui est quand même, auquel on attribue déjà cette mention de calcul. Il y a également d'autres travaux d'Al-Khali où on trouve assez, de façon assez claire des activités combinatoires, ce qui est assez naturel, c'est dans le champ de la prosodie. Dans le plan, ça se fait aussi, ces activités combinatoires. Bon, là, je ne vous en parle pas, mais enfin, disons qu'il y aurait certainement un livre à écrire sur Al-Khalil qui n'a pas été écrit. Donc, je ne vous en dirai pas plus. Mythologie également, c'est-à-dire comment on fait pour on a des messages qu'on veut rendre illisibles par les gens qui n'ont pas les codes, enfin bon, voilà, ce genre de choses. J'arrête là momentanément sur la linguistique pour passer maintenant à l'algèbre et pour pointer aussi les relations entre l'algèbre et la combinatoire, qui sont très importantes, qui sont d'autant plus importantes que c'est dans le champ de l'algèbre qu'on va voir apparaître un événement tout à fait déterminant pour l'histoire des activités combinatoires dans le monde arabe, et je réserve ça pour le slide suivant. Mais avant, je veux simplement présenter un peu l'algèbre tel qu'on l'a dans le monde arabe. D'abord, c'est une... L'algèbre naît en tant que discipline, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des activités algébriques, on peut qualifier d'algébrique avant ou dans d'autres traditions, etc. Enfin, ça naît véritablement comme discipline entre 813 et 833 chez un auteur comme, qui s'appelle Al-Khwarizmi, qui est un auteur qui va être traduit en latin. Son nom latin, c'est Algorithmus, qui a donné le fameux algorithme, etc. Donc, ça vient l'algorithme, ça vient de la transition latine de son nom. Donc c'est à partir de là que l'algèbre va se développer aussi bien dans le monde arabe que dans le monde latin. Donc il compose son traité entre 813 et 833. On a ces dates parce que simplement il le dédie au calife de l'époque qui a régné entre ces deux dates. Il faut bien voir aussi que c'est une discipline nouvelle qui ne pouvait pas être une discipline grecque pour un certain nombre de raisons. D'abord parce que c'est une discipline dont l'objet, au fond, l'inconnu algébrique, et cette inconnue algébrique, elle peut être à la fois de nature des grandeurs géométriques ou bien de nature numérique. Et ça pose un problème. Ça va poser d'ailleurs un problème pour les philosophes, les arithmétiques. Il y a des aristotéliciens arabes, comme El-Farabi ou Avicenne, parce que comment ranger cette discipline dont l'objet est complètement incertain, hein. Seulement, chez Aristote, pour une discipline, ça se définit par son objet. Ici, qu'est-ce que c'est que l'objet de l'algèbre? C'est l'inconnu, qui peut être à la fois géométrique ou... Enfin bon, bref, c'est assez compliqué. Ce qui fait que ça reste quelque chose qui est assez difficilement compris. Imaginable dans le monde hellénistique. Donc c'est une nouvelle discipline qui naît vraiment à ce moment-là. Bon, on peut expliquer pourquoi c'est ce nom-là, Al-Khwarizmi, celui qui sera reconnu par ses successeurs pour avoir fondé cette discipline. Et cette discipline, fondamentalement chez Al-Khwarizmi, c'est une théorie des équations quadratiques, c'est-à-dire de degré inférieur ou égal à 2. Et déjà, d'emblée, si vous voulez, ça se présente déjà sous un mode combinatoire. Ça ne se voit pas beaucoup, parce qu'au fond, il y a 6 équations, donc il suffit de classer les 6 équations. Donc évidemment, l'activité combinatoire est relativement réduite. Néanmoins, bon, cette activité combinatoire, il s'agit d'exposer ça de façon méthodique et tous les cas. C'est pour ça que je dis un peu c'est combinatoire. Ça se voit un peu plus lorsque, chez les successeurs, comme El-Khayyam, au XIIe siècle, on va envisager les équations de degré 3. Bon, là, il y en a un peu plus, il y en a 24. Donc, il s'agit. Alors, il y a des quadrinomes, des trinômes et des binômes. C'est avec 2 termes, 3 termes, 4 termes. Et donc, bon, là, vous pouvez avoir une combinatoire qui n'est pas très compliquée. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une activité combinatoire pour ça. Enfin, là, on est quand même obligé de faire une sorte de classement. Hein, qui peut être relativement naturel. Néanmoins, bon, vous avez quand même, si vous regardez toutes les formes possibles des équations, forcément cette petite activité combinatoire. Donc au départ, c'est une théorie des équations du deuxième degré qui, rapidement bute sur un problème fondamental, c'est-à-dire que si on veut étendre la théorie, parce que la théorie est relativement simple, l'équation du deuxième degré, bon, tout le monde voit ça au lycée, comment faire un fromage pour nous. Donc si on veut étendre un peu la théorie, qui vaut vraiment la peine, parce que c'est quand même important de pointer que cet AGEM naisse comme en posant des catégories a priori de problèmes. En fait, c'est ça l'équation. Je me pose des formes infinies de problèmes qui peuvent prendre qui sont en nombre infini et je résous tout hein, de façon méthodique. Donc c'est ça un petit peu la gération des. Mais si je veux développer ça, ben je vais étendre à des degrés supérieurs, mais on bute sur quelque chose qui est compliqué, c'est-à-dire comment résoudre par le calcul les équations de degré 3. Ça, c'est quelque chose qui sera résolu véritablement par l'algèbre italienne au XVIe siècle, soit qu'il y ait eu des essais chez le monde arabe, soit, et c'est là que ça va être intéressant, c'est développer un calcul algébrique, c'est-à-dire de regarder quelles sont les formes que peuvent prendre les formes les plus canoniques que peuvent prendre les expressions algébriques, et on va retomber ici sur un classement encore là qui est une forme normée qui est celle des polynômes en gros, hein, ou des polynômes un peu étendus, et c'est véritablement ça qui va être défini et travaillé chez un mathématicien comme El-Karaji, donc fin 10e, début 11e siècle. Bon, c'est le début véritablement de la géométrie. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est précisément dans ce champ-là, c'est-à-dire dans le développement du calcul algébrique, c'est-à-dire comment je fais lorsque j'ai un polynôme pour donner des règles de calcul sur ces quantités qui sont inconnues, et dont j'ai envie de connaître les règles de calcul comme je les connais pour les quantités connues. C'est ça le projet général de cette tradition. Et très rapidement, on arrive à cet acte qui, enfin, cet événement en fait qui est celui-là. C'est-à-dire que dans ce champ, eh bien, on arrive au triangle arithmétique. On arrive au triangle arithmétique qui là est véritablement marque un point nodal de toute cette histoire pour des raisons que je vais expliquer tout à l'heure. Alors vous voyez, je compare avec celui de Pascal sur la droite. Alors bon, il n'est pas exactement mis de la même façon, c'est-à-dire que ce que vous lisez en vertical chez El-Karaji, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 1, 4, 6, 4, 1, vous le lisez en diagonale chez Pascal. Mais, vous voyez ? C'est-à-dire chez Pascal, vous avez 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, etc. etc. Ce sont les diagonales, tout simplement parce que c'est mis un peu autrement, c'est-à-dire que la ligne des 1 chez El-Karaji, elles sont horizontales, et puis en diagonale, alors chez Pascal, c'est en horizontale et verticale. Enfin bon, sinon c'est exactement la même chose, avec une même règle de formation, hein, c'est-à-dire que pour avoir, vous savez une règle de formation de ce triangle chez Pascal, bon, chaque terme du triangle arithmétique peut être déduit de la somme de deux termes du rang précédent. C'est exactement ce qu'on va retrouver aussi chez El-Karaji. Je trouve que chez El-Karaji, si vous voulez, la raison fondamentale, c'est une de la découverte de ce tableau, c'est une raison algébrique. Cette raison, c'est en fait le calcul des coefficients du binôme. Pour faire simple, dans le premier cas, c'est que j'ai a plus b au carré, ben c'est a2 plus 2ab plus b2, a plus b au cube, c'est a3 plus 3ab plus 3. Comment je trouve ces coefficients, hein? Là, j'ai expliqué, enfin, j'ai développé le k4, hein, bon, on associe, donc a4, 6, 4, 1. Bon, c'est vraiment ces coefficients qu'on va retrouver dans le tableau, et c'est véritablement une activité combinatoire. C'est-à-dire, par exemple, si je prends les termes A2, B2, hein, ben, les termes A2, B2, pourquoi il y en a 6 ? Eh ben, c'est parce que j'ai un produit de 4 fois A plus B, il faut savoir quels sont les 2 parmi les 4 où je vais, euh, je, je, je vais avoir les A2, parce que ça peut être le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Donc c'est vraiment une activité combinatoire qui est celle qui va être celle d'Elkaraji, et qui c'est à partir de là qu'il va construire cette table, où il va construire aussi il va donner aussi la propriété de construction, hein, qui est celle que l'on connaît, et non seulement ça, mais il va aussi démontrer par récurrence cette propriété par une des premiers cas d'induction complète qu'on peut trouver dans l'histoire des mathématiques. Alors, enfin, je dis que c'est Al-Karaji, en fait, ce n'est pas Al-Karaji, pour être plus précis, c'est son élève Elsa Moral, dont j'ai écrit le nom là, qui fait cette démonstration, qui expose cela. Là, c'est un issue du manuscrit d'Elsa Moral. Simplement, pourquoi je ramène Al-Karaji? Parce que Elsa Moral dit, ben, c'est Al-Karaji qui a trouvé ça, donc j'ai dit, seul l'approprié, mais pas, donc il dit, c'est lui, il n'y a pas de raison de ne pas le croire. Alors, vous voyez qu'ici, c'est une activité combinatoire qui trouve sa justification précisément dans le calcul algébrique. On a véritablement un calcul algébrique qui amène cette activité combinatoire, qui débouche sur sur la mise au jour de ce triangle arithmétique. Ce qu'il y a de tout à fait intéressant par la suite, c'est que toutes les activités combinatoires qui vont suivre vont reconnaître dans ce triangle arithmétique créé pour les besoins de l'algèbre quelque chose d'un peu plus général qui sort peut-être un petit peu du cadre de l'algèbre. Et donc je vais simplement prendre un certain nombre d'exemples. Donc d'abord il y a une très grande diffusion de ce triangle, hein, c'est-à-dire que très probablement il peut y avoir une succession à peu près continue depuis Al-Karaji jusqu'à Pascal. Bon, vous savez que Maurolico avait ce triangle, il était bien avant Pascal, il était aussi lui en relation, vivant en Sicile, en relation avec le monde arabe. Enfin, on ne sait pas exactement comment Maurolico l'avait, mais en tout cas c'était quelque chose de toute façon extrêmement diffusé dans le monde arabe, qu'on trouvait dans beaucoup de traités. De traités d'arithmétique, et aussi qui va être utilisé dans un certain nombre de champs. Et donc, je vais revenir dans un premier temps sur la lexicographie. Parce qu'à partir du moment où on a ce triangle d'arithmétique, et bien on va pouvoir faire le lien, hein, qui va être expressément fait, entre les travaux lexicographiques d'Al-Khalil et puis le triangle arithmétique. Et je donne ici un exemple qui est celui d'un géographe du XIIIe siècle qui s'appelle qui va reprendre explicitement le projet combinatoire d'Al-Khalil, mais qui va l'étendre à tous les mots de moins de 10 lettres, et pas seulement les racines. Vous avez dit que Al-Khalil travaille sur les racines, il va travailler sur les mots, et il va s'exprimer ainsi. Alors d'une façon, on voit ici qu'en fait il travaille sur des lettres, mais il prend une analogie avec des couleurs, c'est-à-dire que on comprend bien ici que ce dont on traite, ce n'est pas véritablement le champ d'application de l'activité combinatoire, mais c'est quelque chose d'un peu plus général. Là, ça s'exprime en termes de couleurs. Et donc, je vous donne la citation. Donc, on dispose de 10 couleurs de soie. On voudrait constituer des touffes dont certaines sont d'une seule couleur, d'autres de deux couleurs, d'autres encore de trois couleurs, jusqu'à ce que la dernière touffe soit constituée de 10 couleurs. Et on voudrait connaître le nombre de types de touffes tout seul. Donc c'est vraiment une activité ici combinatoire pour laquelle il va donner et utiliser donc le triangle arithmétique qui est, dont on reconnaît si vous voulez, qu'il a le nombre de combinaisons nécessaires. Donc voilà le retour sur la lexicographie. On va aussi trouver cette activité dans le lien avec la théorie des nombres, notamment chez Nasiruddin al-Tusi. Nasiruddin al-Tusi, c'est un immense savant qui a travaillé à la fois mathématicien, philosophe, astronome, enfin, tout ce que vous voudrez, qui vit entre 1201 et 1273, qui va être un des premiers qui donne véritablement une interprétation combinatoire du triangle arithmétique à sa loi de formation. C'est-à-dire que c'est de façon explicite dans son traité d'arithmétique. D'autre part, j'ai oublié Ibn Battuta, avant c'était toujours dans la lexicographie, Ibn Battuta c'était un mathématicien qui est probablement la source d'Ibn Khaldoun, qui est un mathématicien maghrébin aussi, et qui met explicitement en rapport les combinaisons utilisées pour la lexicographie et les nombres figurés, hein, qui sont issus de la tradition néo-pythagoricienne. Donc il va y avoir un lien qui va se faire entre ces nombres figurés et puis le nombre de combinaisons. Ouais, ça, c'est un travail qui va être fait de façon extrêmement générale par un mathématicien du XIIIe, XIVe siècle qui s'appelle Kamal ad-Din al-Farisi. Donc il étudie de façon systématique les noms figurés et il va les associer. Donc vous voyez ce que sont les noms figurés, ce qu'on trouve chez Nicolas de Gérard, chez Jean Blic, les gens, ça. Tradition pythagoricienne, donc vous représentez des noms par des points, vous avez des triangulaires, des carrés, des pentagones, etc. Donc vous avez des formations. Et là, c'est, là encore, on a une petite activité combinatoire aussi de ce nom figuré, même si tout n'est pas réalisé. Et là, chez le Farisi, on va prendre une notion de nom figuré un peu plus générale que ce qu'on peut trouver chez Nicomaque et consorts, avec une association systématique aux coefficients du minimum, hein, ce qu'il appelle les combinaisons, et qui sont donc les éléments du trio. Et il s'en sert en théorie des nombres, précisément, pour étudier, en reprenant un langage du XVIIe siècle, le nombre de parties d'Hellicott, c'est-à-dire les diviseurs propres d'un nombre, et il va renvoyer aux combinaisons. Alors, pour savoir le nombre de diviseurs propres, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que vous décomposez un nombre en nombre premier, donc vous avez. Ça dépend combien vous avez de facteurs premiers dans un nombre. Et avec ces facteurs premiers, ben vous faites des combinaisons et puis vous savez savoir combien de diviseurs vous pouvez composer à partir de ces nombres premiers. C'est véritablement encore là une activité combinatoire qui est tout à fait dans le champ de la théorie des nombres. Donc encore c'est un deuxième champ d'application. Troisième champ d'application, la métaphysique. Où là on a encore Nasser ed-Din al-Tusi, je vous avais dit qu'il était mathématicien, astronome, philosophe, là il est sur ce coup-ci philosophe, mais il va mêler à la fois ses activités de philosophe et de mathématicien, puisqu'il écrit un petit traité qui s'appelle sur la démonstration du mode de l'émanation des choses en nombre infini à partir du principe premier unique, où il va reprendre l'ontologie d'Avicenne pour traiter de façon combinatoire le problème de l'émanation des intellects. Et là encore, bon, il va donner à cette analyse un langage qui est vraiment un langage de mathématicien, en faisant encore appel au théorème de l'arithmétique. Enfin, pour terminer ce panorama, je termine par Ibrahim el-Halabi, qui est le premier. Non, je ne parlerai pas, d'abord parce que il y en a dans l'article de Rachel dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a à peu près une page et demie ou deux dessus. Simplement, il s'intéresse aux combinaisons en tant que telles, pour en faire donner un certain nombre de propriétés. C'est surtout important, à mon sens, dans la mesure où ça vient mettre en acte, au fond, ce processus d'autonomisation de l'activité combinatoire, dans le sens où on finit par associer des domaines qui, auparavant, étaient peu en association, comme la linguistique, la métaphysique, l'algèbre, la théorie des nombres, pour reconnaître qu'il y a des outils qui sont les mêmes, et puis aussi ce théorème de l'arithmétique qui sert à chaque fois dans tous les cas. Donc cette reconnaissance, on peut vraisemblablement la dater au moins de Nasser ed-Din al-Tusi au XIIIe siècle. Donc ça semble assez naturel qu'au bout du compte, à un moment, on vient s'intéresser à l'analyse combinatoire en tant que telle, et pas simplement pour reconnaître que le triangle arithmétique a une vocation plus universelle que le domaine précis dans lequel il a été constitué. Voilà, j'en ai fini pour la première partie de mon exposé, qui dresse un panorama général. Simplement une remarque un peu générale, c'est-à-dire que vous voyez qu'on voit aborder des thèmes ici qu'on va retrouver au XVIIe siècle, en fait. C'est-à-dire que, c'est... à mon avis, il faut faire le lien. On est dans le cadre des mêmes mathématiques, la même philosophie, au fond. Hein. C'est une philosophie héritée d'Aristote, des mathématiques héritées d'Euclide, de Nicomaque, de ce que vous voudrez. Donc, ce qu'on retrouve au XVIIe siècle, ce sont les gens qui vont travailler sur les mêmes textes. Donc c'est normal, finalement, que les travailleurs sur les mêmes textes, avec les mêmes relations, si vous voulez, la même exigence, la politique, on va le retrouver dans un cas ou dans l'autre, comme dans l'autre, qu'on se retrouve avec les mêmes problèmes et donc les mêmes méthodes, et donc on se retrouve avec les mêmes rapports. C'est-à-dire qu'on va retrouver un traité de combinaison, bon, chez des gens comme Frédéric, avec associé au nom figuré, ou des choses comme ça, en liaison avec aussi une activité en théorie des nombres, enfin, la lexicographie, la prosodie, enfin, tout ça, c'est quelque chose qui, au fond, est relativement... on est au fond dans le même monde, hein. C'est pas un monde si étranger, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude parce qu'on se dit « Oh, la combinatoire, ah, finalement, c'est très éloigné. » En fait, c'est très proche, finalement. Donc c'était un peu la conclusion aussi de ce panorama. Je passe à la deuxième partie de mon exposé sur un thème donc, qui a juste été mentionné par Roger Hachet dans son article, mais pas tout développé, simplement parce que bon, il avait eu le loisir de travailler directement dessus. Et qui me semble intéressant sur plusieurs points. Ce thème, c'est un thème important qu'on va retrouver à la fois dans le monde arabe et dans le monde latin, je vais vous donner quelques noms après, qui a comme point de départ ce qu'on appelle le théorème de Menelaus, qu'on rappelle que souvent les gens... XVIIe, au XVIe, ou même dans le monde arabe, rapporte plus souvent qu'à Menelaus, il rapporte ça à Ptolémée, parce que Ptolémée, non seulement l'énonce et le démontre dans l'Almagest, mais en plus il en a une utilisation absolument massive. Alors c'est quoi? Mais si vous avez ce qu'on appelle un quadrilatère complet, ce qu'on appellera plus tard un quadrilatère complet, donc vous avez cette figure-là, qui va vous dire, et avec un théorème, qui vous dit que le rapport de EA à EB est égal au rapport de FA à FD, composé avec le rapport de CD à CB. Alors, c'est pourquoi c'est utilisé de façon massive dans l'Almagest. Alors là, j'ai nommé le cas plan, mais en fait, dans l'Almagest, c'est le cas sphérique, c'est-à-dire qu'on est à la surface de la sphère, de la sphère céleste. Donc, ce sont des triangles sphériques, en fait. Mais ça marche aussi pour des triangles plans, mais enfin bon, chez Ptolémée, évidemment, chez les astronomes, c'est un usage avec le triangle sphérique. C'est ça que ça dit. Alors, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que, et c'est ce pourquoi il va y avoir une activité combinatoire, c'est que, au fond, vous avez une relation ici, mais vous pourriez en avoir d'autres. C'est-à-dire que le rapport de EA à EB est égal au rapport de F. A à FD composé avec le rapport de CD à CB, je peux construire d'autres types de compositions, comme par exemple, vous voyez tout de suite que, bon, avec notre notation, avec l'usage, l'habitude qu'on a, je peux écrire aussi que le rapport de EA à FA est égal au rapport de EB à FD composé avec le rapport de CD. Vous voyez que je peux composer plein de choses. Donc en fait, cette relation, elle peut être exprimée de multiples façons. Alors, en réalité, il faut revenir à un mathématicien qui s'appelle Thabit ibn Khurra, dont j'ai donné ici les noms, 826-901, le premier traité rédigé sur les rapports composés. Et ça va être le départ d'une tradition extrêmement importante, bon, dans le monde arabe, Al-Sijzi, Ahmad ibn Yusuf, qui est quelqu'un comme... Je dis, c'est dans le monde arabe, mais en fait, on a perdu le texte en arabe, on l'a tout simplement en latin, parce qu'il a été traduit en latin. Nasser al-Din al-Tusi, le même, dont j'ai parlé tout à l'heure, il s'est vraiment occupé de tout. Et puis, ça va être continué aussi chez Campanus, Carban et Morolico. Thabit ibn Khurra va aussi écrire un traité sur le rapport composé, mais par sur le théorème de Menelaus, en regardant tous les cas possibles d'écriture de ce théorème. Et ce texte de Savick va être lui aussi traduit en latin et va avoir aussi une certaine répercussion dans l'Europe médiévale. Et donc, on va avoir des cultivateurs, comme Tadus Carpentre ou Lupo, qui vont s'intéresser de la même façon à ces rapports proposés. Alors, on pourrait dire que on pourrait trouver que c'est un point anecdotique. En fait, c'est un point, finalement, qu'on y réfléchit, qui se trouve, où vont se trouver mis en jeu des éléments assez fondamentaux des mathématiques classiques. Alors, pourquoi Savick va composer un traité là-dessus? Simplement parce que il se trouve que Euclide, dans les éléments, utilise la notion de composition de rapports, des rapports composés, mais il n'en donne jamais de définition. Et ça, c'est tout à fait étonnant, parce qu'en général, Euclide, quand il utilise une notion, un concept, ou je ne sais pas quoi, il donne toujours une définition. Là, il n'y a pas de définition. Donc, il y a un manque qui avait déjà été repéré, et l'idée, au fond, c'est de compléter Euclide sur ce point, puisqu'il n'y a pas de définition, on le trouve dans les éléments. Donc, premier point, ça va être de donner une définition consistante à ce que c'est que la composition de rapport. Bon, c'est l'un des premiers aspects. Donc, le traité de Savick a trois chapitres. Donc, le premier va traiter des rapports composés les uns aux autres, définition de ça, et puis aussi avec un retour sur qu'est-ce que c'est qu'un rapport. Et donc là, c'est aussi extrêmement important, c'est aussi très, très, très important lorsqu'on y réfléchit, parce que il y a une sorte d'infléchissement qu'on voit naître à ce moment-là une sorte de volonté de traiter les rapports de façon numérique, ce qui n'est pas vraiment grec, mais enfin c'est aussi un point de départ dans lequel on a pu voir peut-être précisément un des lieux où on pouvait voir l'extension de la notion de nombre des quantités irrationnelles, par exemple. Ce genre de choses, d'appliquer des règles arithmétiques, d'opérations arithmétiques à des grandeurs géométriques, parce qu'il y a bien à peu près au même. Le deuxième chapitre traite de la connaissance des grandeurs dans les rapports. Là, je vous cite, je cite Savick, c'est tel qu'il présente lui-même ses chapitres. Le second chapitre traite de la connaissance des grandeurs dont les rapports sont composés les uns aux autres. Enfin, le troisième chapitre traite de problèmes résolus à l'aide de la composition des rapports. Donc, l'activité combinatoire qu'on va voir apparaître, c'est l'objet au fond du deuxième chapitre. C'est-à-dire la connaissance des grandeurs dont les rapports sont composés les uns les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au fond, formulé autrement, c'est que nous apprend sur les grandeurs mises en jeu une relation de composition de rapport. C'est-à-dire que je me donne cette relation de composition de rapport, qu'est-ce que je peux savoir de plus? Donc, ce que je peux savoir de plus, en premier lieu, c'est donner toutes les autres formes d'écriture de cette même relation. C'est une relation avec six éléments, il y a six éléments là-dedans, donc je peux composer aussi ces six éléments pour composer aussi autre chose. Et puis aussi, je peux jouer aussi à autre chose. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si deux éléments parmi les six sont égaux, ou trois parmi les six, ou bien deux et deux, vous voyez, et quel type de relation, quel type de conséquences est-ce que, dans ce cas-là, dans ce cas particulier, peut avoir une relation de composition de rapport. Donc voilà le projet qui va être réalisé de ce chapitre 2. Si ça vous intéresse, c'est dans les éditions complètes des œuvres de Savick qui est paru chez De Gruyter en 2004, je crois. Ouais. Voilà. Alors, l'idée, c'est de partir donc de cette relation. Je vais avoir on s'abstrait, ça va plus être qu'un jeu un peu combinatoire ici. On s'abstrait un peu du terme de Ménélaus, de l'astronomie, pour rester se focaliser sur j'ai six grandeurs, j'ai une relation de composition, par exemple le rapport de Rabeil pour le composé de C, D et de EF, et je vais, à partir de ça, énoncer 17 autres relations de composition, ce qui fait 18 avec celle de départ. 17 autres, pas plus. Bon, il faut essayer de comprendre pourquoi. On va expliquer tout à l'heure. 18, alors en fait, dans les faits, il va expliquer après qu'on va pouvoir doubler ce nom en passant à 36, simplement en prenant les rapports inverses. C'est-à-dire que je peux écrire à partir de là que le rapport de B sur A est égal au rapport de B sur C, composé avec le rapport de F sur E, ce qui est une assez évident. Donc, ces relations sont obtenues par permutation du sextuplet A, B, C, D, E, F, mais, vous voyez, c'est-à-dire que je peux ordonner ce sextuplet pour former la liste, si vous voulez, de ces six grandeurs me donne une relation. Donc, évidemment, toutes les permutations, je ne peux pas tout permuter. Il y en a certaines qui sont admissibles pour donner une relation exacte, il y en a d'autres qui ne sont pas admissibles. Par exemple, si le rapport A sur D, ici, il ne peut pas être composé de deux autres rapports où interviendraient les quatre autres rapports à partir de là. Donc, ce que va faire Sabine, c'est lister toutes ces 17 autres relations, et puis les démontrer. Les démontrer à partir du début. Et c'est là que c'est particulièrement intéressant. Ce sont les démonstrations. Et je prends simplement l'exemple de la cinquième relation, la démonstration de la cinquième relation. Il s'agit de montrer que si on a notre relation de départ, c'est-à-dire que A et B est composé de CD, le rapport de CD est composé avec le rapport de E à F, alors, c'est ce qu'on veut montrer, le rapport de A à E est égal au rapport de B à F, composé avec le rapport de C à D. Or, il a déjà démontré que si on a la même prémisse, eh bien, j'ai deux choses. D'abord, le rapport de A à E est égal au rapport de B à D composé avec le rapport de C à F. Ça, c'est la quatrième relation qu'il a démontrée. Et aussi la première relation qu'il a démontrée, c'est-à-dire que le rapport de A à B est composé du rapport de C à F et du rapport de E à D. Et pour démontrer sa cinquième relation, plutôt que de démontrer directement, il va utiliser en fait un mode de raisonnement qui est purement combinatoire. C'est-à-dire qu'il a deux permutations admissibles, et il va composer ces deux permutations, c'est-à-dire puisque mes deux permutations sont admissibles, je les compose et j'obtiens d'autres permutations qui va être elles aussi admissibles. Et sa démonstration, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que si vous voulez, dans la dernière relation, hein, qu'on a démontré en premier, hein, c'est-à-dire le rapport de A à B est égal à le rapport de C à F et le rapport de A à D, si je remplace, comme dans la quatrième, A par A, A par B, B par E, pardon, C par B, B par D, E par C et F par F, et puis que j'applique encore la même chose, eh bien je vais retomber précisément sur ce que je veux démontrer. C'est-à-dire que... Oui, c'est ça. Ce qu'il va expliquer... je n'ai pas donné la citation. Si. Oui, voilà. Je cite Sabine, je dis la première devient alors A, la deuxième E, la troisième B, la quatrième D, la cinquième C, la cinquième F. C'est ce qu'il obtient donc en composant ces deux choses. Ce qui fait qu'au fond, cette démonstration revient à dire que, bon voilà, puisque j'ai deux permutations admissibles, et bien la sigma 1 et sigma 4, et bien la permutation sigma 5 est également admissible parce qu'elle est composée. Des deux permutations antérieures. Donc ça me semble un élément tout à fait intéressant à noter, comme vraiment un raisonnement purement ici combinatoire qui va au-delà, si vous voulez, des simples outils qu'on peut se donner là-dessus. Alors ensuite, ce qu'il va faire, c'est une fois qu'il a fait démontrer toutes ces 17 relations, il va présenter ça sous une forme de tableau. Hein, donc ici, dans l'édition que j'ai faite, j'ai repris le fait que c'était de droite à gauche, donc en fait, il faut lire le tableau de droite à gauche. Donc la première c'est A, la deuxième c'est B, la troisième c'est C, la quatrième c'est D, la cinquième, etc. Et puis la septième colonne, c'est l'ordre dans lequel il a fait la démonstration. Donc, et si vous voulez, vous avez ce tableau-là, et ce tableau vous indique en septième colonne quel est le numéro de la démonstration que vous voulez voir exposé. Alors, remarquez bien ici, il fait tout apparaître, hein, toutes les permutations. Alors, il y en a qui ne sont pas admissibles. Alors, quand ce n'est pas admissible, dans la septième colonne, vous avez un zéro, hein, puisque vous n'avez pas de démonstration, de toute façon, il ne peut pas y avoir. Voilà, alors vous voyez qu'en gros, ce qu'il essaye de faire, c'est. Là, il y a dans ce tableau, c'est un ordre lexicographique, en fait. Hein, vous classez ça en fonction de la dernière colonne, puis la deuxième, puis la troisième. Enfin, la première, puis la deuxième, puis la troisième. Et que ces démonstrations, autant que faire se peut, elles suivent cet ordre, mais avec des petites différences, puisque vous voyez qu'au début, on commence à 1, 2, 3, 4, 5, et après, vous passez à 8, et que 6 et 7 seront démontrés un peu plus tard, parce que. Pour des raisons internes à la démonstration. Bon, et il dit comment il faut utiliser cette table, hein, c'est-à-dire que. Donc vous avez 6 colonnes, et donc si vous notez 1, 2, 3, 4, 5, 6, les contenus des 6 colonnes, là, vous aurez ce type de relation. Ensuite, il va introduire une notion un peu originale, qui est la notion de champ. Et ce qu'il va dire, c'est la chose suivante. Il va dire, voilà, dans mon sextuplet, toutes les grandeurs, évidemment, ne sont pas interchangeables. Hein, elles sont, au fond, dans deux champs, dans deux ensembles. C'est peut-être une notation un peu ensembliste qui fait jeu aussi. Bien, donc, je cite, il appelle là clairement que si nous partageons les 6 grandeurs en deux groupes, que nous posons la première d'entre elles, la quatrième et la sixième dans un groupe, et que nous posons les grandeurs restantes, à savoir la deuxième, la troisième et la cinquième dans un autre groupe, alors le rapport de toute grandeur se trouvant dans l'un des deux groupes à une grandeur dans l'autre groupe, quelle qu'elle soit, est composé des rapports des grandeurs restantes. Quant au rapport d'une grandeur à ce qui se trouve dans son groupe, il n'est pas composé des rapports restants. Que chacun des groupes soit appelé un champ, que le groupe dans lequel se trouve le premier nom soit appelé le premier champ, et que d'autres groupes soient appelés le deuxième champ. Et pour mieux marquer l'imagination de son lecteur, donc il fait un petit schéma, comme ça, comme on fait en théorie des ensembles, avec des patates, on appelait ça avant, donc pour mettre tous les éléments qui sont dans son ensemble. Donc, au bout du compte, et là, on va sortir un peu du champ euclidien, c'est-à-dire qu'il est resté jusqu'à présent complètement euclidien. Sa définition des rapports composés, ce n'était pas chez Euclide, mais c'est tout à fait dans le style euclidien. Toutes les démonstrations, elles sont totalement dans le style euclidien. Là, il sort du champ euclidien pour utiliser, au fond, parce que c'est plus simple à comprendre, en fait, une multiplication de grandeur, qui va être utilisée dans la troisième partie pour les problèmes. C'est-à-dire qu'au fond, ça me paraît naturellement maintenant, parce qu'on a une notion un peu plus étendue de la multiplication que lui ne pouvait l'avoir. C'est-à-dire qu'effectivement, là, si vous avez le rapport de AB égal au rapport de CAD composé par le rapport de E par F, et bien vous allez avoir le produit de A par D par F égal au rapport au produit de B par C par E. Autrement dit, le produit des grandeurs du premier champ est égal au produit des grandeurs du second. Qui va exprimer dans ce troisième chapitre, hein, c'est vraiment dans ce troisième chapitre qu'il va utiliser ce chose-là, la façon suivante. Ce qui vient du premier, d'une des grandeurs qui sont dans le premier champ par une autre grandeur parmi elles, et de ce que l'on a obtenu par la troisième est égal à ce qui vient du produit d'une des grandeurs qui sont dans le deuxième champ, quelle qu'elle soit, par une autre grandeur parmi elles, et ce qu'on a obtenu par la troisième. Donc, c'est une notion qui est ici l'orientée à une méthode proprement combinatoire, qui ouvre la voie. En particulier, un dénombrement de toutes les relations combinées non possibles en utilisant un produit d'arrangement, ce qui va être la notion, qui va être la voie explorée plus tard par Nassir al-Din al-Tusi, parce que Nassir al-Din al-Tusi va reprendre exactement, il va écrire un traité lui aussi là-dessus, avec cette activité combinatoire. Mais alors que, si vous voulez, on ne sait pas la façon dont sa vie est parvenue à ses 36 champs, au fond, parce qu'il en a 36 relations. Avec des grandeurs différentes, puisqu'on en a une, plus 17 multiplié par 2, ça fait 36. Ce que fait Nassim El-Soussi, il utilise les moyens combinatoires qu'il a déjà hein, pour dire quelque chose qui revient à ça. C'est fait aussi, c'est le produit de trois arrangements. Hein, c'est comme ça dépend, puisque vous avez deux groupes, hein, vous arrangez les grandeurs du premier groupe, les grandeurs du deuxième, et puis vous avez au fond de ce produit d'arrangement le nombre total de relations de composition. Bon, à part la suite, dans ce qu'on peut trouver chez Savit, dans son livre 2, je reviens dans le chapitre 2, pardon, ben c'est pour vous un peu vous donner une idée aussi, c'est bon là il a exploré tout ce qui se passe pour lorsque les six grandeurs sont distinctes. Après, si je les prends, si j'en prends deux qui sont égales, ben je vais obtenir des choses un peu supplémentaires qui sont soit des rapports d'égalité entre des grandeurs, des proportions à des autres, à des grandeurs, etc., ou des rapports doublés, ou ces choses comme ça. Et donc, ils vont être là exprimés dans ce type de tableau, hein, puisque ça va continuer de façon tout à fait méthodique jusqu'à au minimum. Il faut quand même qu'on ait au minimum trois grandeurs pour avoir des compositions de rapports, sinon ça n'a pas de sens. Et donc il va descendre jusque-là pour la composition des rapports. Voilà en gros ce que je voulais vous dire sur ce bit. Donc c'est quelque chose aussi qui est aussi important, un champ aussi dans lequel on va voir apparaître donc, cette activité combinatoire, qu'on va voir apparaître aussi dans l'Europe latine et jusqu'à la Renaissance. Avec là encore l'intervention de Nassim El-Soussi qui va mettre, qui va utiliser donc les outils combinatoires mis au jour dans le cadre du triangle arithmétique. Ce qui me semblait intéressant, donc, c'est non seulement le champ d'application, mais également cette méthode un peu combinatoire de composition de permutation qui me semblait intéressante à dire. Voilà, j'ai à peu près terminé un peu un panorama.